L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Jumière, Les miroirs brisés. Mise en scène, production, Jean-Pierre Jumière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Edmond lui dit, ça m'a permis de vous revoir. La pochette était un peu comme la chaussure de Cendrillon. Et Souris lui dit, merci. Le père furieux lui dit, ma fille n'est pas une souillon. Florence lui dit, c'est une image, père. Et c'est très gentil et romanesque. Le père aux épaules. Elle dit, asseyez-vous, vous voulez peut-être boire quelque chose ? Pour rester plus longtemps près d'elle, il lui dit, oui, merci. Elle lui montre une chaise. Ils s'assoivent tous. Le père est furieux. Elle sonne pour faire venir le domestique. Il demande, vous êtes bien rentré hier ? Elle lui dit, oui, avec mon père et vous, moi aussi. Mais seul. Entrez. C'est le domestique qu'elle demande. Que désirez-vous boire ? Il lui dit, un jus de citron. Et elle demande à son père, et vous, père ?
Un bourbon.
Elle dit au domestique, deux citrons et un bourbon. Le domestique se retire. Son père se dit,
elle est comme les autres. Tout est cité parce qu'un garçon vient la voir. Ce n'est même pas Alain, hélas.
On frappe à la porte. Entrez. Entre le domestique avec les boissons. Il pose sur la table basse et fait le service. Monsieur, c'est un citron. Monsieur ?
Moi, c'est le bourbon.
Un citron. Après avoir fait le service, il se retire. Ils boivent en silence. Le père demande au jeune homme ce qu'il fait et quel est son père. Il voit que la famille est très bien, mais il se dit que cela n'empêche pas que ce soit un bon à rien. Après un moment, Edmond se lève et leur dit, je dois vous quitter, hélas, j'ai affaire. Ils se lèvent tous pour le raccompagner. Avant de quitter la pièce, ils sont tristes tous les deux. Ils lui demandent, est-ce que je pourrais venir vous voir ? Le père dit,
ma fille est fatiguée.
La fille dit, oh père, je peux bien le revoir ce jeune homme. Je ne suis pas si fatiguée que ça. Et puis, j'y tiens. Edmond, tout heureux, lui dit, alors demain, je viendrai vous chercher à 15h. Elle dit, d'accord. Et il est parti. Le père est furieux. Il lui dit,
pourquoi as-tu accepté de sortir avec cet inconnu ?
Elle lui dit, il a l'air tellement gentil. Et puis, c'est toi-même qui m'as dit qu'il fallait que je sorte un peu. Elle embrasse son père sur la joue et lui dit, t'en fais pas, je suis une jeune fille très sérieuse. Il soupire et se dit,
il faut bien qu'elle sorte un peu, mais
ça lui fait peur. Lorsque le soir, il retrouve son père au salon, le père lui demande
« Alors, tu as retrouvé Cendrillon ?»
Edmond lui dit « Oui, père. » Le père lui dit
« J'en étais sûr. »
Edmond s'assoit dans un fauteuil en face de son père et lui dit « Tu savais comme elle est délicieuse ?»
Son père l'aime beaucoup alors.
Oui.
Et tu sais, je comprends si tu cherches qu'à jouer avec elle, je connais la jeunesse.
Edmond lui dit furieux, mais père, C'est très sérieux ? Père lui dit.
Comme d'habitude.
Ah ! Non, c'est très sérieux.
Ah bon ?
Oui. Le père demande.
Et son père serait d'accord ?
Je ne crois pas. Il semble la surveiller.
C'est très bien ça. Il a peur qu'il lui arrive quelque chose. J'aime ça.
Oui, père. Et cela prouve que la fille est sérieuse. La famille semble être très fortunée, le père lui dit.
Je n'en doute pas.
Il se dit.
Si vous pouvez récupérer ce qui m'a pris.
Edmond lui dit. Je vais la retrouver demain après-midi.
Ah, déjà ?
Oui.
Tu as raison.
Edmond le regarde et lui demande. C'est la première fois que tu es satisfait que je sorte avec une jeune fille. Le père lui dit.
Et pourquoi ? Pas. Et puis, elle est sérieuse et sa famille bien.
Edmond lui dit. Oui. Et puis, il y a du bien.
Et le lendemain après-midi, Florence attend Edmond au salon avec son père.
Son père lui dit.
Tu ferais bien tout de même de faire attention au jeune homme. Il n'a pas l'air très sérieux et puis il ne fait rien.
Elle lui dit, des chômeurs, il y en a des millions.
Il lui dit, des chômeurs milliardaires.
Elle lui demande, et pourquoi pas ? Les milliardaires n'auraient-ils pas le droit d'être au chômage comme tout le monde ?
Il sourit.
Son père lui dit, tu ferais tout de même de faire attention. Ce jeune homme n'a pas l'air sérieux. Et puis, il ne fait rien.
Elle lui dit, des chômeurs, il y en a des millions.
Il lui dit, des chômeurs milliardaires.
Et pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que les milliardaires n'auraient pas le droit d'être au chômage comme tout le monde ?
Il rit.
Entrez.
C'est un domestique qui dit, c'est le jeune homme qui vient chercher mademoiselle. Elle lui dit, amenez-le ici. Le domestique se retire. Le père dit,
calme-toi.
Frappe à la porte.
Entrez.
Il est agacé. Entrez, mon. Le père dit,
bon, eh bien, venez vous asseoir, boire quelque chose.
Florence se lève. Elle le mène à une chaise et elle appuie sur la sonnette. Le père demande,
vous aimez ma fille, hein?
Edmond lui dit, nous allons nous promener, il fait si beau.
Vous l'amenez où?
Nous promènerons simplement.
Entrez.
Entre le domestique. Le père demande à Edmond.
Qu'est-ce que vous désirez boire ?
Edmond lui dit, un whisky.
Et toi, chérie ?
Elle dit à son père, un citron. Le père dit,
eh bien, moi, une orangeade.
Le domestique se retire. En se disant que c'est le jour des enfants. Le père leur dit,
vous ne rentrerez pas trop tard.
Laurent lui dit, bien, c'est juste pour la journée.
Entrez.
C'est le domestique qui vient avec les boissons.
et il fait le service.
Une fois qu'il a fait le service,
il se retire. Ils boivent une gorgée en silence. Le père demande
que vous ne rentrez pas trop tard. Que faites-vous comme métier?
Laurence lui dit,
ça ne nous regarde pas.
Et moi, on lui dit,
ce n'est rien. Je n'en ai pas vraiment. Je ne sais pas vraiment ce que je vais faire.
Le père demande,
vous êtes au chômage?
Edmond est surpris.
Quoi?
Le père lui dit,
oui, ma fille a cru comprendre.
Florence rouge lui dit,
je n'ai jamais dit ça.
Edmond lui dit,
bien sûr que non. Je laisse ça aux gens du peuple. Non, lorsque nous avons des difficultés, nous arrangeons. Et ne demandant rien à la société, j'ai ma dignité. Faire la queue au chômage, c'est bon pour les va-nu-pieds. Chacun son monde.
Le père dit,
vous avez tout à fait raison.
La fille est furieuse, se lève et dit, je crois qu'il est temps de partir. Ils se lèvent tous. Le père les accompagne. Avant qu'ils ne se quittent la pièce, le père dit,
bonne pommade.
Elle dit,
nous ne prenons pas le métro.
Edmond soupire, surpris, dit,
j'ai ma Ferrari.
Et ils sont partis.
À 20h, lorsqu'elle entre chez son père, elle le retrouve au salon. Il lui demande,
vous êtes allé où?
Elle lui dit, au parc Monceau.
Pourquoi si loin? Il y en a un côté.
Elle lui dit, parce qu'il adore le parc Monceau, comme moi d'ailleurs.
Il lui fait, ah!
Germain est inquiet et se demande s'il ne faudrait pas arrêter de suite cette histoire. Parce que si ça se prolonge, ça risque de créer des complications. Jusqu'à présent, il n'y en a pas eu. Parce qu'elle était bien en main avec lui. Mais là, elle risque de vouloir prendre sa vie et la changer. Elle risque de savoir des choses. Mais si on arrête cette histoire, plus tard, on risque de voir que ça recommence. Oui, mais c'est plus tard.
Bon, avant de prendre une décision, attendons un peu.
Le lendemain, Edmond retrouve son père au salon pour le petit déjeuner. Son père lui demande,
Alors, ça s'est bien passé cette promenade avec la jeune fille ?
Oui, père, très bien.
Fais attention, c'est une jeune fille. Sois sérieux avec elle.
Mais je l'ai été, père. Et puis, je suis sûr que c'est très sérieux. Je t'assure, elle me plaît vraiment. Oui, elle me plaît vraiment.
J'en suis très heureux. Je tiens à ce que tu fréquentes pour de vrai.
Edmond est surpris et lui demande. Mais pourquoi, père, d'habitude, tu repousses toutes mes relations?
Il lui répond. Mais là, elle me plaît beaucoup.
Edmond lui dit. Je suis sûr que tu t'es renseigné sur la famille.
Oui, un peu. Et j'ai appris de bonnes choses qui m'ont beaucoup fait plaisir. Tu peux pas savoir.
Et l'on se dit que la famille de Florence doit avoir une fortune considérable. Le père se dit,
une fois que j'aurai la fille dans ma famille, je pourrai me venger du père.
Et lui demande,
« Tu la revois bientôt ?»
Edmond lui dit, « On devrait... Enfin, on dirait c'est que c'est toi, le fiancé. Oui, nous nous reverrons. Mais je sais, c'est qu'elle a eu un grave accident et il faut qu'elle se repose. »
« Oh oui, bien sûr. » Bien sûr.
Florence est très heureuse. Elle a rencontré enfin un garçon charmant, gentil et très beau. Elle pense beaucoup à son passé, mais aussi à son avenir. Il y a une chose qui l'émeut. C'est sa grande qui l'ennuie, c'est sa grande fatigue. Toujours ses rêves qui sont toujours là. Toujours là. Un après-midi, qu'elle est assise au jardin, dans un fauteuil en rodin, près de son père. Son père lui demande.
Ça te fera du bien. Si tu restais un petit moment ici.
Oui, père. Mon père lui dit un peu gêné,
« Ça ne te ferait rien si tu me laissais ton père tout seul ?»
Elle lui dit, « Mais je ne me laisserai jamais seul, père. »
« Mais si tu te maries ?»
« Même si je me marie, je viendrai vous voir très souvent. »
On dit ça,
mais je le pense. Elle se penche pour lui, pour lui donner un baiser. Lui dit,
tu te souviens que tu étais petite, comme nous aimions?
Bien sûr, père, que je m'en souviens. En réalité, elle ne se souvient de rien, pas le moindre souvenir d'enfance ou autre, rien. Sur son père, mais c'est seulement qu'elle a eu un accident, un très grave accident de voiture, mais que cet accident non plus, elle ne s'en souvient plus. Elle se sent appartenir à aucune famille, même pas celle-là. Elle se dit avec honte qu'elle ne ressent rien vis-à-vis de personne, même pas de son père. Elle est obligée de se forcer pour avoir des sentiments pour lui que par obligation. La nuit, elle a toujours ces crises de cauchemar et cette sensation qu'on veut la prendre, la forcer comme dans un viol. On lui dit que c'est dû à son accident, mais ça ne ressemble pas à un accident, ce qu'elle rêve, mais à un viol. Alors, pourquoi ? Le père dit au bon docteur Morel que sa petite chérie a un amoureux. Alors, il a joué la scène de l'amoureux délaissé et a donné un peu plus de calmant à la jeune fille en lui disant
« Vous pouvez, j'en donnerai bien aussi au jeune homme. Il doit en avoir besoin. » Parce que être près d'une si jolie jeune fille, de pauvre, il doit bouillonner de plaisir. Le père lui dit, docteur, vous parlez devant une jeune fille. Le médecin se dit, vous croyez? Il est vrai que les derniers informés sont les parents et le marié. Mais malheureusement, il l'apprend trop tard. Oui, vous croyez, mais il est vrai que les derniers informés sont les parents et le marié qui lui apprend bien trop tard la chose. Les jours passent.
Edmond va voir Florence une fois par semaine. Il l'amène l'écouter à un concert, au théâtre, au cinéma, se promener dans les environs de Paris. Il se tient bien avec elle et ne fait aucun geste équivoque parce qu'il la croit pure. Elle aussi se croit pure. À part quelques chastes baisers et caresses, rien de plus. Elle lui a dit son accident et sa perte de mémoire. En marchant des jardins du château de Versailles, elle lui dit « J'ai de grands moments de lassitude. Il faut que je me repose souvent. » Je ne pourrais pas être très utile. Et puis, je ne sais pas me tenir. Comme il faut, faudra que tu sois toujours près de moi. Il l'embrasse sur le joue et lui dit, ça n'a pas d'importance. Nous aurons des domestiques. Ne te fais pas de soucis pour ça. Quant à ta santé, nous irons voir des spécialistes. Je ne comprends pas pourquoi ton père ne te demande pas à des médecins compétents au lieu de te faire soigner par ce petit médecin généraliste. Il dit que c'est un bon médecin et très humain et que s'il faisait soigner par un grand médecin, je risquerais d'avoir peur et que de toute façon, perdre la mémoire, lorsqu'on perd la mémoire, il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à attendre que ça revienne et c'est tout. Aucune image ne te revient? Non, rien. Il lui dit, comme ça sort une femme, toute neuve, et qui m'aime, et qui est comme si elle venait de naître. Elle pense à Frédéric et se dit que c'est pas tout à fait ça. Il lui dit qu'il y a peut-être des personnes qui savent qui je suis vraiment. Il lui dit, oui bien sûr, ton père. Elle lui dit, je ne sais pas. Je vais te dire un secret. Des fois j'ai l'impression que je ne sais pas, que je ne sais pas ce qu'il dit, ce que je suis. Et puis j'ai l'impression, c'est qu'ils veulent que je sois comme ça. Mais pas pour. Mais moi, je ne vois pas. Il demande, pourquoi veux-tu pas qu'ils disent qui tu es? Je ne sais pas. J'ai l'impression que je ne suis pas ce qu'ils disent, ce que je suis, et qu'ils veulent que je sois comme ça. Je ne sais pas. Un malaise, comme si j'étais dans le corps d'une autre. Il lui dit, tu réfléchis trop. Tu es bien ce qu'ils te disent. Et puis ton père te le dit et ne peut te mentir. Il ne ment jamais, mentirait jamais pour ça. Elle lui dit, tu as sûrement raison, mais j'y peux rien. Ça me vient comme ça. Il l'embrasse sur la joue et lui dit, moi je me moque de savoir qui tu as été. Je t'aime comme ça. Et lui demandait, toi, moi, oui, qui es-tu? Je suis moi, oui, mais tu en as connu d'autres, jeune fille, femme? Il rougit, il dit, attends, il vaut mieux que je te le dise maintenant, oui, oui, j'en ai connu d'autres, oui. J'étais assez coureur, j'ai eu beaucoup d'aventures, si on peut exprimer ça comme ça. Parce que c'était tellement rapide, mais le sentiment n'y a jamais été pour quelque chose. C'est la première personne que j'ai aimée. Avant de te connaître, j'ai eu une vie assez dissolue. Je sortais beaucoup, m'amusais beaucoup, dépensais beaucoup et je ne faisais rien. Mais depuis que je te connais, je change. Je ne sors plus, je ne vois plus personne. Il y a juste une chose que je n'arrive pas à trouver une solution. J'ai trouvé quelque chose à faire, du travail. Là, je ne sais pas quoi choisir. Rien, rien ne me plaît. Elle lui demande, et le travail de ton père? Il lui dit, il me fatigue. Et puis, le cuir, c'est une odeur qui me donne mal à la tête. Et lui, tu travailleras alors avec mon père? Il lui dit, ce serait peut-être un peu trop. Je lui demande la main de sa fille et une place. Elle lui dit, je suis sûr qu'il s'en serait très heureux. Les hommes aiment bien avoir un fils pour lui succéder. Et lui, n'en a pas eu. Tu le remplacerais? Tu oublies, c'est que j'ai un père qui risque d'être jaloux. Elle lui dit, nous les ferons sympathiser.
Les jours passent. Germain aimerait que ce flirt s'arrête, mais il ne dit rien. Et puis, il a d'autres ennuis. Un matin, Edmond s'apprête à quitter la maison.
Son père le voit et lui demande
« Où vas-tu ?»« Je dois y aller. J'en ai besoin. »
Mon père lui dit
« Tu as raison. Mais tu dois être en forme. Mais tu ferais mieux, c'est de voir Poirier. Oui, tu ferais mieux de voir Poirier. »
Edmond lui dit,
tu sais bien que ça ne sert à rien. Et puis, ça me fait du bien où je vais.
Bien, vas-y.
Et Edmond quitte son père. Il prend la voiture et roule. Il a arrêté sa voiture dans une petite rue populaire de Paris où Saint-Jacques, où il y a des petits immeubles, quelques vieilles maisons sans âge. Il sort de voiture et va sonner à la porte de ces affreuses maisons. La porte s'ouvre. C'est une femme maigre, petite, cheveux noirs, en chignon, tête osseuse, l'air revêche. Elle porte une petite robe noire toute simple. Il dit,
je viens la voir. Je n'en ai plus.
Elle dit,
vous avez de la chance. Elle vient tout juste de se réveiller. Venez.
Et elle le fait rentrer.
Le couloir de la maison est sombre. Les volets n'ont pas été ouverts.
Elle ouvre une porte. Entrez. En attendant, il entre.
Ça ressemble à un salon, avec des chaises disparates. Il y a même une chaise de cuisine en formica, abîmée et sale. Une vieille table où se trouvent des revues genre Voici. S'assoit sur une chaise. Ça sent le renfermé.
La porte qui est en face où il est rentré s'ouvre.
Et apparaît une femme grande, grosse, cheveux blonds, tête ronde et la peau très blanche. Elle porte un espèce de déshabillé rose, sale et des pantoufles rouges aussi. Il se lève et lui dit,
te voilà déjà de retour?
Oui. Elle lui dit,
ça n'a pas fait l'effet longtemps cette fois.
Oui, il me faut.
Viens, je vais te détendre.
Et il la suit.
Dans une autre pièce.
Là, il y a un divan en cuir défoncé, une table et une armoire. Sur la table, du matériel, des pommades, des seringues. Elle dit,
allonge-toi et descends ton pantalon.
C'est ce qu'il fait. Elle se penche sur lui, lui dit « Tu vas voir, j'ai les mains expertes. Et tu vas... Ça va te faire du bien, mon Mimi. Tu te sens toujours mal ?
Oui.
Et j'en ai besoin. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Cette fois, je vais te faire du bien. Oui. Je te le prends. Ferme les yeux et ne pense à rien. Laisse-moi faire. Et elle se penche sur lui. Une demi-heure plus tard, il ouvre les yeux. Elle se redresse. Elle est en sueur. S'essuie le visage et les mains avec son mouchoir. Lui remet en place son pantalon. Et se lève et lui demande « Ça va mieux ?»«
Oui, merci. »
« Tu peux partir ?»
Il lui demande « Tu me donnes pas ?»«
La prochaine fois, cette fois, tu dois pas en avoir besoin. »«
Il faut absolument que je sois en forme, tu comprends ?»«
Oui, la petite, mais est-ce qu'elle sera, elle, capable de... » me remplacer.
Elle est gentille. Et puis, je peux revenir si j'en ai besoin.
Ça m'étonnerait. Tu es comme ça. On n'y peut rien.
Je pense que j'en aurai toujours besoin.
Oui, tu es comme ça. On n'y peut rien. Chacun son fardeau. Allez, va-t'en. J'ai un autre client, un prêtre. Tu vois, malgré qu'il soit prêtre, lui aussi. Et il quitte la pièce. Dans le couloir, il retrouve la vieille qui lui tend la main. Il y met un billet et quitte la maison. Il se sent mieux, mais pour combien de temps? Il ne veut pas que Florence le sache. Les jours passent. Un soir, Armand, mère Cache, va à une soirée chez son ami le médecin Poirier, qui habite la même rue que lui. Une maison dans un grand parc. Il y va seul. Son fils ne veut pas y aller.
Je veux pas être observé comme un cobaye,
comme tu voudras.
Lorsqu'Armand arrive, il y a déjà beaucoup de monde. Retrouve son ami, le docteur Poirier, au salon, au milieu de ses invités. Le docteur Poirier est un homme grand, mince, très élégant, les cheveux épais, châtains, tête ronde, sympathique.
Merci d'être venu, ton fils n'est pas venu.
Non. Tu sais qu'il déteste les médecins.
Mais moi, je ne suis pas un médecin. Je suis un ami.
Je le sais. Mais pour lui, tu es tout de même un médecin.
Et regarde autour de lui, il dit.
Tu en as du monde.
Oui. Amis, mais aussi de mes malades que je connaisse. Mais je ne fais pas d'heures supplémentaires à mon demande.
Et ton projet de clinique?
Poirier lui dit. Je me détends, je ne pars pas de travail. Bon, enfin, je peux te dire c'est que c'est en bonne voie. Ça intéresse quelques vieilles rombières. Tu parles, j'aurais dit que je mettais en service un service de chirurgie esthétique et d'amincissement. Elles ne savent pas que lorsqu'elles viendront se faire tirer la peau, elles paieront aussi pour le reste. Armand rit. Une vieille maigre à tête de cheval, robe rouge, fait signe au directeur pour qu'il vienne vers elle. Il dit à Armand. Je dois y aller, c'est une de ces toquées. Tu vois, sa tronche, elle s'imagine qu'on peut y faire quelque chose. Armand lui dit.
Transforme-la plutôt en jument.
Oui, ce serait plus facile. Mais elle s'imagine en Bardot. Armand lui dit.
Mais Bardot,
celle que Dieu créa la femme. Et il le laisse. Armand va au buffet prendre une coupe de champagne. Il prend une coupe et tombe sur un homme qu'il semble connaître. L'homme est grand, mince, cheveux blancs, yeux bleus, élégant. Il est plus jeune qu'Armand. Armand le reconnaît.
Bonjour, comment allez-vous?
L'homme dit. Oh, pas très bien. J'ai mes fils qui ne font que se chamailler. C'est insupportable. Ils se détestent.
Vous en êtes sûr?
Oui, hélas.
De la jalousie?
Je ne sais plus. Je ne sais comment faire. J'ai bien essayé de les séparer, mais rien n'y fait. C'est pire. Ils se recherchent que pour se battre. Tu te rends compte des frères. Toi, t'as de la chance. Tu n'as qu'un fils.
Oui, mais j'ai mes ennuis moi aussi. Un fils unique crée des ennuis. Je l'ai très mal élevé, trop ganté. Maintenant, j'en paie les conséquences. Comme l'on dit, on est puni par où l'on a péché. Et puis dit,
moi, je ne sais pas quel péché j'ai fait pour que je sois puni.
Allons savoir. On a 12 péchés d'une façon ou une autre. Même le juste, comme dit l'autre, pêche 7 fois dans la journée. Alors nous, qui ne sommes pas des justes, nous lui disons,
qu'est-ce que tu en sais? Pour moi.
Si tu en étais un, on le saurait. Ils sont tellement peu sur cette terre.
Poirier va à eux.
Il dit à Armand, tu peux me rendre un service? Je ne peux pas y aller. Elles vont me suivre. Est-ce que tu peux aller à mon bureau prendre sur mon bureau une petite boîte rouge? C'est mes pilules. Pour mes douleurs, maman me demande.
Tu es malade,
comme tout le monde, mais j'ai simplement des douleurs au dos. Et il faut que je des calmants.
Tu devrais t'allonger.
Ça ne sert à rien. Même allongé, ça me fait mal. Et je peux me mettre n'importe comment, j'ai toujours mal. Je peux te dire une chose, c'est que je suis mieux lorsque je marche. Mais si je reste longuement debout, sans bouger, ça me fait mal.
Bien, je vais te chercher tes pilules miracles.
Et quitte la soirée, monte à l'étage. Il connaît la maison de son ami. Au premier, il ouvre une porte. Et entre dans le bureau. Éclair. Heureusement, qui connaît bien. C'est un bureau meublé, Louis XVIII. Ben, à table de bureau. Éclaire en plus sa lampe qui est sur le bureau, parce qu'il fait tout de même très sombre. Voit une boîte rouge qui est sur un dossier bleu clair. Prend la boîte et en la prenant, il voit marqué au feutre un nom qui le frappe. Germain de Courcelles. Il est surpris. Met la boîte dans sa poche. Ouvre la pochette. Et là, il lit. Apprend que de Courcelles est soigné par Paris, par Perrier. En partie par lui parce qu'il semble être bien malade. Il lit que de Courcelles est mourant presque. Ferme le dossier. Il en sait assez. Se dit que de Poirier est bien inconscient de laisser les dossiers de ses clients comme ça. S'il fait la même chose pour le sien, tout le monde doit savoir ses petits bobos. Heureusement que lui n'a rien de grave. Mais grâce à l'étourderie du médecin,
nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les miroirs brisés. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.